Géopolitique.
François Mazet.
Bonjour et bienvenue dans Géopolitique, le débat. Un succès sportif peut servir une nation autant qu'une victoire militaire, disait en 1974 le président américain Gerald Ford. Il ne faisait là que reprendre une réalité bien connue des dirigeants depuis l'Antiquité. Les Jeux contribuent à la grandeur de la cité, renforcent sa cohésion, la préparent au combat. Exaltation du corps, physique et social, de la patrie, de son système politique parfois. Le sport s'est imposé comme un fait mondial de notre modernité. Mais au XXIe siècle, celui de la mondialisation, de l'éclatement, de la dématérialisation de la puissance, quelle place tient le sport sur la scène internationale? Comment les nations jouent-elles la carte olympique? Le sport est-il la continuation de la diplomatie par d'autres moyens, comme on le dit souvent? On en parle avec nos invités à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio. Nos invités sont quatre. Tout d'abord, en ligne de Rio, où il réside, le journaliste Jean-Jacques Fontaine. Il est auteur de Rio de Janeiro et les Jeux Olympiques, une cité réinventée. Bonjour.
Bonjour.
Par téléphone également, Jean-Pierre Augustin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de géographie à l'université Bordeaux-Montaigne. Votre dernière publication à la documentation photographique, Le sport, une géographie mondialisée. Armand de Randinger est également en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant spécialiste de l'olympisme. Vous avez travaillé auprès de plusieurs villes candidates. Vous avez publié La tentation olympique française en 2014 et Jeux perdus Paris 2012, Paris gâché en 2006. Et puis en studio à mes côtés, Frédéric Munier. Bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez la géopolitique en classe préparatoire au lycée Saint-Louis de Paris. Vous êtes notamment auteur d'un dictionnaire de géopolitique et vous avez collaboré à un dossier sur les enjeux du sport dans le dernier numéro de la revue Conflit, qui est un trimestriel de géopolitique.
C'est ça.
Alors, organiser les Jeux Olympiques, ce n'est bien sûr pas une aventure neutre, c'est un pari, c'est une image qu'on renvoie au monde, une démonstration d'un savoir-faire, d'un savoir-vivre. Jean-Jacques Fontaine, dans le cas du Brésil, ces JO sont la concrétisation d'une quinzaine d'années d'efforts. Alors, quel est le manifeste brésilien à l'occasion de ces Jeux? Qu'est-ce que le Brésil veut montrer au monde?
Alors, il faut se replacer un tout petit peu dans le temps. En 2009, très exactement au moment où la candidature de Rio a été validée par le Comité international olympique. À ce moment-là, le Brésil, c'était un peu le géant qui montait. C'était une puissance économique qui commençait à exister. Il y avait une politique relativement originale qui avait été mise en place par le Parti des Travailleurs et Lula, qui visait à essayer de faire sortir les pauvres de la pauvreté grâce aux retombées de la croissance. Cette année-là, la croissance était de 7,5%. Il y a donc eu une conjonction de facteurs entre cette réalité d'un pays montant, le fait qu'il n'y avait jamais eu encore de Jeux Olympiques en Amérique du Sud, qui explique que Rio a vaincu face à des villes comme Chicago ou Madrid. Ceci dit, entre ce moment-là et aujourd'hui, la situation a profondément été bouleversée. Parce qu'en 2015, le Brésil a connu une récession de 3,8% et les Jeux se passent dans un contexte où, effectivement, les choses ne sont plus du tout comme en 2009. Heureusement, peut-être, pour la préparation des Jeux, la crise est intervenue relativement tard, ce qui fait que les choses étaient déjà suffisamment bien engagées pour que ça ne pénalise pas les Jeux d'aujourd'hui.
Jean-Pierre Augustin, le Brésil en 2009, c'était le géant de demain, un pays qu'on vendait émergent, démocratisé, jeune, plein de vitalité. Cette image, elle est brouillée aujourd'hui.
Oui, effectivement, elle est brouillée, mais il n'empêche que ces Jeux ont lieu et que le Brésil va profiter quand même de cette visibilité mondiale pour asseoir, on pense, sa notoriété dans le monde et dans le monde du sport.
Frédéric Munier, la notoriété du Brésil, elle n'est plus la même aujourd'hui qu'en 2009. Il y a une image écornée un petit peu sur la scène internationale.
Oui, c'est évident, comme ça a été rappelé. Effectivement, le Brésil était au fait de sa croissance en 2009-2010, 7,5. Une grosse récession aujourd'hui, des pans de la population qui retournent un peu vers la pauvreté, ce qui explique d'ailleurs qu'il y a eu des manifestations importantes contre l'inauguration des Jeux lors de leur ouverture. Une partie de la population se sont aujourd'hui reléguées. Je rappelle que les Jeux ont coûté officiellement 11 milliards d'euros, peut-être plus, et nous savons depuis une quinzaine d'années, les derniers Jeux équilibrés à peu près sont ceux de Sydney en 2000. Depuis, les Jeux sont déficitaires. On peut comprendre effectivement l'amertume peut-être d'une partie des Brésiliens aujourd'hui.
Armand de Randinger, attribuer les Jeux Olympiques 7 ans avant leur organisation, ça met évidemment l'organisation sous le coup de remous politiques dans le pays choisi. Mais est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut faire plus court? Ou est-ce que c'est vraiment un délai incompressible?
Eh bien, tant que le processus d'attribution est celui que l'on connaît aujourd'hui et qu'il est inchangé, 7 ans, ça paraît le minimum pour organiser les Jeux. Si l'on veut faire une rotation des pays au nom de l'universalité, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Et c'est ça, vraiment, un des grands problèmes qui se pose. Et ce problème a 2 conséquences. Le premier, c'est qu'on se rend compte, durant la préparation de l'organisation des Jeux, dans les 7 années qui précèdent la cérémonie d'ouverture, on se rend compte que l'environnement politique, économique, financier, social change. Et avec le Brésil, c'est évident. Du coup, on se trouve dans une situation très paradoxale. Le CIO souhaitait que beaucoup de villes soient candidates, par exemple, pour 2024. Par exemple, New Delhi, pour l'Inde, grand pays émergent aussi. L'Afrique du Sud, il y a Durban. Et là, on voit que ces pays ne se sont pas présentés parce que il y avait des risques, d'une part, d'instabilité et surtout un retard évident quant à la capacité d'organiser les Jeux dans des conditions normales. Ça, c'est une des premières conséquences qui est liée au mode d'attribution des Jeux aujourd'hui et qui pose vraiment problème. Il y a un deuxième problème qui se pose aussi, et non des moindres. Lorsqu'on fixe une échéance à 7 ans, parce qu'il faut bien comprendre, s'il y a 1 seconde de retard au moment de la cérémonie d'ouverture, ce sont des millions et des millions de pénalités qui tombent. Donc, on doit être pris par l'échéance à tout prix. Tous les principes liés à la démocratie, aux problèmes juridiques, aux problèmes de faire en sorte que les appels d'offres soient correctement faits, sans corruption, sans conflit d'intérêts, ainsi de suite, tombent. Eh bien, c'est le problème qui se pose aujourd'hui. Lorsqu'on veut attribuer les Jeux à un pays émergent, 7 ans à l'avance, parce qu'on ne veut pas faire autrement, on se trouve dans cette configuration où, un, les grands principes démocratiques et les grands principes juridiques sont bafoués, et la situation, si elle n'est pas très stabilisée au départ, et s'il n'a pas fait ses preuves par le passé, eh bien, on a de la difficulté. D'autant plus, il ne faut pas oublier que Rio était candidat contre Paris en 2012, avec 7 autres villes, et Rio n'a même pas passé ce qu'on appelle le cut, c'est-à-dire ce moment où, un an avant l'attribution du jeu, on dit si oui ou non vous pouvez être candidat. Ben, Rio était candidat au même titre qu'Istanbul, et comme par hasard, Rio et Istanbul n'ont pas passé le cut. 4 ans plus tard, Rio les a obtenus. Or, la situation politique avait pas beaucoup changé, c'était amélioré entre ces 2 périodes qui allaient jusqu'en 2009, mais pas autant qu'il aurait fallu. Et donc, le CIO a pris un risque très important au niveau de l'universalité. Je ne suis pas certain qu'il prenne un risque de même nature vis-à-vis d'un pays émergent à l'avenir.
D'ailleurs, Armand Rendinger, même pour l'organisation des JO 2016, Rio n'avait que la 5e note à l'évaluation de tous les candidats, 6,4. Tokyo et Madrid avaient plus de 8 sur 10. C'est peut-être un pari qu'avait pris le CIO.
Ah oui, c'est plus qu'un pari, c'était un risque, je veux dire, qui était soi-disant calculé, mais assez invraisemblable. Il faut dire que Rio a fait une campagne de lobbying assez remarquable, avec une implication très grande du président Lula. Le meilleur dossier était largement Madrid, comme ça avait été le cas aussi pour 2012, mais les aspects techniques à ce moment-là, dans la période qu'elle est de 2007 à 2009, n'étaient pas les éléments les plus importants. On a toujours considéré que les pays, quels qu'ils soient, et Athènes en est l'exemple, vont être capables d'organiser les Jeux, même dans les difficultés. Or là, on a pris un risque, parce qu'on était persuadé que parmi les 4 pays, les briques comme on les appelle, eh ben, le Brésil s'en sortirait très très bien pour 2016. Or, on a vu les difficultés qui existent aujourd'hui.
Jean-Jacques Fontaine.
Oui, j'aimerais un petit peu nuancer ces propos, parce que je les trouve un tout petit peu caricaturaux. Je pense qu'il y a effectivement une part de géopolitique, il y a une part de décision opportuniste sur le moment dans l'attribution des Jeux, mais il y a quand même aussi un dossier derrière. Et je crois que effectivement le dossier Rio de Janeiro était relativement bien ficelé et se trouve de fait relativement bien exécuté, notamment en ce qui concerne tous les travaux de transformation de la ville de Rio. On parle d'un budget de 11 milliards d'euros. Effectivement, sur ce budget, la grande majorité ne concerne pas l'organisation des Jeux ni la réalisation des Jeux, mais les transformations urbaines. Hein, c'est pratiquement 60% des coûts du projet olympique Rio concernent les transformations urbaines, que ce soit la revitalisation du port, la réforme du système des transports, la mise en place d'un certain nombre d'équipements sociaux, dont ce qu'on appelle les cliniques de la famille, qui sont des centres de soins de santé primaire, etc. D'autre part, sur ce budget, 60% de ce budget qui a été monté en système de participation publique-privée est payé par le privé. Et il est vrai que lorsqu'on vit à Rio de Janeiro comme je le fais, on s'aperçoit que les mutations urbaines provoquées par les Jeux vont certainement embellir et transformer la ville. Ceci dit, elles auraient pu être faites sans les Jeux. Sauf que s'il n'y avait pas eu l'aiguillon des Jeux, peut-être que ça ne se serait pas fait, parce que ce ne sont pas des projets nouveaux. Ce sont des projets qui étaient dans les tiroirs, mais qui ont été ressortis à l'occasion de cet événement.
Voilà, il manquait l'événement structurant. Frédéric Munier, vous vouliez réagir également.
Oui, bien sûr. On retrouve ici une des difficultés, peut-être même une des contradictions du CIO, qui d'un côté, vous le savez très bien, dans la charte, prétend ne pas faire de politique, et d'autre côté, est tout de même attentif aux enjeux politiques. Il y a deux exemples historiques qui me venaient à l'esprit. Alors l'un qui est très connu, c'est les JO de 36 à Berlin, puisque bien le CIO avait voulu, au début des années 30, puisque l'Allemagne revenait dans le concert des nations, réintégrer l'Allemagne symboliquement par l'obtention donc par des JO de Berlin. Et ce qui s'est passé, on le sait tous, c'est qu'en 33, Hitler est élu, et à ce moment-là, des questions se posent au CIO. Qu'est-ce que l'on fait, est-ce que l'on recule ou non? Et finalement, eh bien, après avoir fait de la politique en donnant à Berlin, dans un souci de réconciliation européenne, si vous voulez, les JO, eh bien, le CIO argue de l'apolitisme pour finalement les conserver à Berlin. Il y a un deuxième exemple qui est moins connu, c'est celui de Mexico. Il ressemble, je trouve, beaucoup, alors d'un point de vue plus politique qu'économique, aujourd'hui, à ce qui se passe à Rio. C'est que Mexico, donc c'est la 68, pour la première fois, donc un pays d'Amérique latine, effectivement, l'Amérique du Sud se distingue aujourd'hui avec Rio, mais pour la première fois, un pays d'Amérique latine obtient les JO d'été. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, si vous voulez, le Mexique, c'était un petit peu le Brésil d'aujourd'hui. Grande puissance montante. On disait à l'époque, on disait pas un BRIC, on disait un NPI, un nouveau pays industrialisé. Le Mexique avait une très forte croissance. Et là, eh bien, encore une fois, le CIO a voulu distinguer ce grand pays émergent. Or, voilà ce qui se passe. 15 jours, 10 jours, même pas, avant l'ouverture des JO, le pouvoir était une dictature à l'époque. Il y a une très forte répression. 30 000 manifestants sont dans la rue. La répression est terrible. 320 morts. Le CIO, là encore, s'est demandé que faire. Et finalement, eh bien, il n'y a eu aucun mouvement de boycott. Et les JO se sont dans une atmosphère extrêmement tendue.
Il y a aussi eu des exemples plus positifs, comme quand le CIO accompagne la Renaissance espagnole avec Barcelone 92.
Vous avez raison. Mais très souvent, on retrouve ce souci du CIO de distinguer des puissances qui montent. Et d'ailleurs, vous vous souvenez sûrement du dernier de Samaranch qui déclarait que pour les JO actuels, eh bien, si Paris avait le choix de son cœur, eh bien, Rio avait celui de sa tête.
Armand Drandinger sur le CIO qui accompagne les cycles politiques et historiques.
Oui, il les accompagne, mais même on peut dire que de temps en temps, il les précède. Regardez les Jeux de Séoul de 1988. Tout le monde a poussé les hauts le cœur en disant « mais c'est scandaleux qu'on ait attribué les Jeux à la Corée du Sud au détriment du Japon ». Et en fin de compte, Samaranch expliquait très clairement que ça permettrait éventuellement à la Corée du Sud de s'ouvrir pour les sols extérieurs et de mettre éventuellement à bas je dirais le simulé de dictature qui existait dans ce pays. Ça est tout à fait le cas pour 88. Ça a été aussi le cas en ce qui concerne l'attribution des Jeux de Pékin. Ils étaient en concurrence avec Sydney pour l'an 2000. Ils ont perdu d'une seule voix, alors que tout le CIO était derrière Sydney, a priori, pour obtenir les Jeux. Quand ils se sont présentés pour 2008, après avoir sauté 2004, eh bien, tout le CIO s'est mis derrière Pékin, et au détriment de Toronto, qui était le meilleur dossier technique, au détriment de Paris, au détriment d'Istanbul et d'Osaka, eh bien là, Pékin, pourtant, il y a eu des manifestations monstres contre le fait que les droits de l'homme, le Tibet, et ainsi de suite, eh bien là, le CIO a dit très clairement non. On veut attribuer les Jeux à la Chine parce que ce sera une opportunité pour la Chine de s'ouvrir sur les sols extérieurs. Donc, sur le plan politique, on peut dire très clairement que effectivement, il y a une hypocrisie de dire que le CIO est apolitique. Le CIO peut accompagner et peut précéder. Et sur le plan budgétaire, il faut bien dissocier les Jeux olympiques, proprement parlés, qui sont des coûts qui vont, grosso modo, en fonction de la cérémonie d'ouverture et de clôture, entre 1,5 milliard et 2,5 milliards, qui sont totalement couverts, en général, par les droits de télévision, la billetterie, le sponsoring, et les coûts, les investissements en matière d'infrastructure. Et là, il faudra être très très clair à l'avenir, pour renforcer l'image et la crédibilité du CIO dans l'attribution des Jeux, de bien faire la bonne distinction entre ce qui est la fête elle-même de 15 jours et tous les éléments qui accompagnent la fête, qui sont des investissements et qui sont parfois des coûts très très importants, mais qui permettent d'accélérer les investissements qui étaient prévus à l'avance.
Jean-Pierre Augustin, on ne peut pas être une puissance qui compte, ou en tout cas qui espère compter sur la scène internationale, sans organiser des grandes compétitions comme un mondial de football ou des Jeux olympiques.
Oui, ça c'est effectivement une des nouveautés dans ce jeu mondial de visibilité des nations. Donc on voit les concours qui existent. En fait, la première compétition avant les Jeux, c'est gagner l'obtention d'organiser un mondial ou bien d'organiser des Jeux olympiques. Mais je voudrais rebondir sur une idée sur laquelle je travaille beaucoup et qui est en fait très discutée, c'est que les Jeux, mais ça peut être pareil pour un mondial, mais plus pour les Jeux encore parce que ça concerne une ville, sont des occasions, et ça c'est nouveau, c'est surtout depuis les Jeux de Barcelone qui ont été très remarqués pour cela, les Jeux sont l'occasion de restructurer une ville, de travailler sur les transports, sur les déplacements, sur la réorganisation de la ville, sur l'aménagement des espaces publics. Il y a un vrai travail qui est fait et c'est une occasion. Alors ça pourrait se faire en dehors des Jeux, on pourrait le dire, mais justement, les Jeux sont là en fonction d'un calendrier précis qui doit être maintenu obligatoirement et avec des moyens qui sont nouveaux. Donc ça, je crois que le CIO est de plus en plus attentif à cette dimension-là, notamment quand il y a aussi des éléments qui s'intègrent dans une logique de développement durable, comme c'est souvent le cas.
Donc pour des pays émergents comme la Chine en 2008, comme le Brésil maintenant, accueillir les Jeux, c'est non seulement bon pour montrer sa place sur l'échiquier international, mais c'est aussi utile.
C'est ce que je crois. Alors, le débat est ouvert. Souvent, on parle du syndrome de Cendrillon. Au 12 coups de minuit, dans la légende, Cendrillon perd ses atouts. Alors, on dit que les villes, une fois que les Jeux sont finis, certains équipements ne servent plus, etc., etc. En réalité, moi, je pense que les éléments, alors ça a été vrai pour Pékin, je disais pour Barcelone, mais ça va être vrai pour Rio, ça a été rappelé par un de nos collègues, on aura des infrastructures qui vont être utiles, même s'il y a eu des déplacements, même s'il y a eu quelques problèmes pour aménager cette ville, hein, de même que, disons, le baron Haussmann, pour reprendre une image facile, quand Paris a été restructuré et qui a été très critiqué, Paris ne serait pas ce qu'elle est devenue sans ces restructurations et les Jeux Olympiques le permettent.
Alors il y a un contre-exemple à ça, Jean-Pierre Augustin, c'est l'Inde avec son milliard d'habitants qui se tient jusque-là scrupuleusement à l'écart de la mondialisation sportive.
Oui, tout à fait. L'Inde ne participe pas, c'est le pays très important qui envoie proportionnellement le moins d'athlètes au JO. C'est un cas qui est très étudié par ailleurs pour des raisons qui sont historiques, qui sont politiques, qui sont religieuses.
Armand Rondinger voulait parler de ça justement.
Oui, je crois qu'effectivement le CIO se trouve aujourd'hui confronté, j'allais dire, à un problème qui est de savoir quels seraient les pays les plus à même d'organiser les Jeux de demain, c'est-à-dire de l'avenir. Et sur Rencorte, très clairement, il y a trois catégories de pays. Je parle dans les pays sérieux et grands. Et l'Inde fait partie de la première catégorie. Ce sont des pays, pour des raisons, je crois, essentiellement religieuses, là, qui considèrent que faire du sport, c'est une bonne chose, mais organiser un événement qui coûte très cher pourrait poser des vastes problèmes. Deuxième pays, qui, eux, ont considéré que le sport devrait être totalement intégré dans une politique de promotion de l'image du pays. C'est ce que l'on vit actuellement avec, principalement, le Moyen-Orient, avec le Qatar, le Koweït, la Chine aussi. Donc, c'est un certain nombre de pays, j'allais dire, pourraient paraître émergents, mais qui ont déjà une puissance économique, et qui considèrent que le sport doit être totalement intégré dans la politique du pays quant à son image. Et les Jeux Olympiques y concourent. Et puis il y a les troisièmes catégories, et je dirais c'est les pays traditionnels, dans lesquels vous retrouvez l'Amérique du Nord, États-Unis en premier lieu bien sûr, compte tenu de sa puissance, le Canada, et puis certains pays traditionnels européens, que sont l'Italie, la Suède, l'Allemagne, l'Espagne, la France un petit peu moins, qui considèrent qu'ils sont un peu les berceaux de ces grands événements sportifs et qui apportent leur contribution financière d'une part, leur contribution d'image pour organiser ces événements et qui ont la tradition olympique que l'on doit servir, mais que l'on ne doit pas trop servir. Or, on les sert beaucoup, comme on l'a vu par le passé.
Merci Armand Rondinger. On marque une pause, on va se retrouver pour le journal sur RFI et Géopolitique continue dans 10 minutes.
Géopolitique. François Mazet.
La deuxième partie de Géopolitique, le débat sur la géopolitique de l'olympisme. Bienvenue si vous nous rejoignez. Avec nos quatre invités, le journaliste Jean-Jacques Fontaine, le géographe Jean-Pierre Augustin, le consultant spécialiste de l'olympisme Armand de Rendinger et l'enseignant en géopolitique Frédéric Munier. Alors Frédéric Munier, juste avant la pause, on disait justement que les Jeux Olympiques, dans la politique de prestige des pays émergents, c'était quelque chose d'important aujourd'hui.
Oui, bien sûr, on a pu souligner à juste titre que les JO étaient un accélérateur, par exemple, des politiques urbaines. Donc, il y a des retombées financières qu'il faut apprécier dans le temps long, c'est sûr. Mais c'était également, évidemment, un outil de prestige. Et il est quand même frappant que, dans cette fameuse catégorie des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, à l'exception de l'Inde, et on a bien expliqué pourquoi à l'instant, la Russie, la Chine et le Brésil aient souhaité et aient obtenu, d'ailleurs, dans la décennie 2000, la grande décennie de leur émergence, les JO, qui sont effectivement un outil d'accélération des politiques urbaines, d'amélioration, effectivement, du cadre de vie. Ça, c'est vraiment le cas pour Rio, me semble-t-il. Et ça l'est un peu moins pour Pékin et pas du tout, par exemple, pour Sochi. Bon, je vous rappelle que ce sont les jeux les plus coûteux de l'histoire. Ils ont coûté 50 milliards d'euros.
Jeux olympiques d'hiver, donc qui sont
exactement
moins exposés.
Dont on sait aujourd'hui une grande partie, si vous voulez, des infrastructures ne pourront pas resservir dans le futur. Et il s'agit ici vraiment de jeux à la gloire de Poutine qui ont été couronnés, vous le savez, par d'immenses résultats pour la Russie, dont on découvre aujourd'hui qu'ils sont, on y reviendra sûrement, dus en grande partie au dopage. Et il me semble que la bataille qui s'est livrée entre la maire de Paris et le président de la République en France pour les JO 2024 tiennent également de ce prestige. Paris et la France veulent encore exister. Bien évidemment, ça permettra d'accélérer la politique du Grand Paris, mais il y a un enjeu de prestige, exister encore dans un monde où les émergents bien sont de plus en plus importants.
La question du prestige, la question de l'héritage aussi, Jean-Jacques Fontaine. À Rio, on doit se demander ce qui va rester de ces Jeux Olympiques après la fin de la quinzaine.
Oui, alors le problème, c'est pas tellement au niveau des infrastructures qui ont été mises en place ou au niveau des travaux qui ont été faits, parce que là, il y a réellement eu un changement. Le problème, il est beaucoup plus au niveau du fonctionnement de tous ces équipements qui ont été construits ou qui ont été installés après les Jeux, dans un contexte de crise économique qui fait que l'État n'a plus d'argent. Et je prendrai juste l'exemple justement de ces fameuses cliniques de la famille. C'est très spectaculaire au niveau de l'installation de ces centres de soins de santé de base, puisque en 2009, seuls 4% de la population avait accès à ce type de centre, parce qu'il n'y en avait pas assez. Aujourd'hui, c'est 40%. Alors, ok, ces cliniques de base existent. La question, c'est ensuite, il faut un budget pour les faire fonctionner. Il faut payer des médecins, il faut acheter des médicaments, il faut prévoir des soins, etc., puisque ce sont des centres de soins de santé gratuits. Alors, lorsque vous avez un budget relativement bien gonflé, et notamment par les retombées des royalties du pétrole qui était à l'époque à $140, ça va. Quand vous êtes dans une situation de crise économique comme aujourd'hui, avec des retombées du pétrole à $40 le baril, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc dans le cas de l'héritage de Rio, on ne peut pas dire qu'il y aura des éléphants blancs qui ne serviront pas, mais par contre, pas mal des équipements qui ont été mis en place avec un souci de les utiliser après risquent de se trouver confrontés à la barrière budgétaire du fonctionnement.
Jean-Pierre Augustin, les Jeux, ça coûte cher. Avant, pendant, après, du coup, nos auditeurs africains se disent que peut-être une candidature africaine pour des Jeux Olympiques, ce n'est pas d'actualité.
Effectivement. On l'a vu, donc l'Afrique du Sud attend un petit peu son tour, mais ne sera pas candidate pour les prochains Jeux. C'est intéressant de voir quand même comment l'Afrique s'est mobilisée autour du sport. Hein. Il y a 54 pays africains qui sont présentés à Rio, 1025 athlètes africains. Un sportif sur 10, donc, est africain. Alors, la part par rapport à la population est un peu moindre, mais on a quand même quelque chose qui est intéressant. Alors, en fait, l'Afrique, faudrait parler de l'Afrique au pluriel. En réalité, il n'y a que l'Afrique du Sud qui pourrait être capable d'organiser des Jeux prochainement, étant donné que les pays du Maghreb, l'Égypte, posent des problèmes de sécurité qui ne pourront pas être économisés. Donc, il reste encore un espoir pour la première fois des Jeux soit organisé en Afrique, et ça sera certainement en Afrique du Sud. Mais ce qu'il faut noter, je crois, c'est quand même cet intérêt de l'Afrique pour le sport, en sachant que dans cet intérêt, il y a des risques, c'est qu'en particulier donc le marché mondial du sport et des joueurs fait que l'Afrique en général est dépossédée de ses meilleurs joueurs. Ça pose donc tout le problème aussi des déplacements des pays en fonction des médailles qui ne correspondent pas vraiment à la réalité.
Armand Rendinger, l'importance des Africains au sein du mouvement olympique, est-ce que des JO sur le territoire africain, Johannesburg par exemple, c'est une perspective crédible pour vous ?
C'était par le passé une perspective crédible à l'époque où les questions de sécurité ne se posaient pas véritablement et où l'on pensait que le progrès économique ferait que tous ces pays seraient stables sur le plan politique et sur le plan économique et sur le plan social. Or, on remarque aujourd'hui des différents pays qui avaient envisagé de se présenter ou qui s'étaient déjà présentés à des candidatures. Le Cap, Durban, Johannesburg se sont présentés déjà.
Mais n'ont pas été pris en considération.
Casablanca aussi. L'Égypte, via le Caire, avait pensé aussi. Or, aujourd'hui, l'environnement est tel qu'il est difficile pour le CIO, en dépit de la volonté de développer le sport dans ces pays en Afrique, qui est quand même un des points essentiels, ne peut pas se permettre aujourd'hui d'attribuer des jeux dont l'organisation dépendrait essentiellement de la stabilité économique et financière que ne maîtriseraient pas ses propres pays. Dans un délai relativement court, à une échéance proche, je ne pense pas qu'il y ait des candidatures crédibles en la matière, surtout que eux-mêmes, les Africains, le disent. Je vois très bien en Afrique du Sud, Sam Ramzani, qui est le grand penseur du CIO en Afrique du Sud, dit lui-même que l'Afrique du Sud n'est pas mûre pour être candidat à l'organisation des Jeux Olympiques.
Oui, d'ailleurs, quand on voit la situation socio-économique actuelle, on se rend compte que finalement, c'est peut-être une meilleure chose pour les Sud-Africains de ne pas avoir eu ces Jeux. Alors, le lobbying, c'est extrêmement important. C'est peut-être ça aussi qui a manqué aux Africains à un moment dans le processus d'attribution des Jeux. Armand Rendinger, on fantasme peut-être un petit peu sur la place des lobbyistes. Concrètement, comment ça fonctionne ?
On fantasme pas beaucoup. Il faut partir de l'idée suivante. D'abord, ce qui permet d'attribuer les Jeux, il y a, en fin de compte, quatre critères. Le premier, c'est d'avoir un dossier technique qui tient la route. Or, tout pays qui présente une candidature, tout au moins pour ceux qui sont en finale, ils ont un dossier qui tient la route, d'autant plus que maintenant, avec l'agenda 2020 imposé par le CIO, tout le monde se trouve dans la même norme. Parmi les quatre candidatures qui se présentent là, Budapest, Paris, Rome et Los Angeles, tous les quatre présentent un dossier sur le plan budgétaire et sur le plan des infrastructures correct, et les quatre pays sont capables d'organiser les Jeux. Ça, c'est le premier critère. Le critère technique qui est très secondaire. Le deuxième critère est un critère, je dirais, qui avait une très grande importance par le passé, qui était un critère affectif. Chaque membre du CIO disait « moi j'aime tel pays » ou « je déteste tel pays ». Donc c'est difficile de les maîtriser, de savoir très clairement entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il peut y avoir une certaine nuance. Or, ce côté critère affectif disparaît aussi aujourd'hui. Troisième critère qui lui prend une importance mais énorme, qui est celui de la géopolitique. On a parlé beaucoup de l'alternance des continents, ce n'était pas important. Ça n'est pas non plus important aujourd'hui. Non, aujourd'hui, quel est le pays qui pourrait apporter le plus au CIO lorsqu'il organise les Jeux ? Donc c'est plus la question de savoir de se vendre, se promouvoir soi-même, mais c'est de comprendre ce que veut le CIO comme jeu en 2024, en 2026, en 2028 ou en 2032. Alors là, à ce niveau-là, les lobbyistes. Et quand je dis lobbyistes, je veux dire que ce sont les experts qui connaissent bien les membres du CIO, qui connaissent bien quelle est la vision du président Thomas Bach du CIO, la vision des membres du CIO qui influencent les autres. Quand ils les maîtrisent bien à ce niveau-là, sont capables de faire du bon lobbying pour un pays donné. Chaque candidature a ses lobbyistes, mais les meilleurs lobbyistes, c'est ceux qui ont bien compris ce que veut le CIO et non pas ce que veulent essentiellement les villes ou les pays qui sont candidats.
Frédéric Munier, on vend un produit au CIO, une image.
Oui, alors je crois que ce qui vient d'être dit est extrêmement important parce que le CIO effectivement se comporte presque lui-même comme un acteur politique. Il est vrai qu'il cherche à retirer lui-même du prestige. Le CIO, vous le savez, alors même si c'est une ONG, depuis 81, il a un statut d'organisation non gouvernementale, mais il y a une capitale, Lausanne, un drapeau, un hymne, une charte et des ambassades, puisque à côté du CIO, vous avez des CNO, des centres nationaux olympiques. Il y en a 206 d'ailleurs, 206 représentations. Le CIO se comporte comme un acteur géopolitique et la quête de prestige prestige donc ne concerne pas seulement les capitales qui sont désignées, les villes, mais également le CIO lui-même. C'est une préoccupation tout à fait importante aujourd'hui.
Avec des enjeux de pouvoir, Armand Drandinger, quand François Hollande va à Rio pour vendre Paris 2024, on est exactement dans cette ligne-là.
C'est tout à fait ça. C'est vraiment très intéressant. J'ai pu vivre multiples candidatures. J'ai vécu les candidatures avec Jacques Chirac, les candidatures avec le maire Tibéri, le maire Delannoy. Maintenant, je vois comment Anne Hidalgo se comporte et je vois comment le président Hollande se comporte par rapport à Chirac. Et quand je vois comment Hollande se comporte par rapport à Kerry, le vice-président des États-Unis, ou que comment se comporte Eric Garcetti, le maire de Los Angeles, par rapport à Anne Hidalgo, on voit des nuances très très importantes. Hollande s'implique véritablement et se prend comme l'acteur clé capable de promouvoir l'image de la France pour obtenir les Jeux Olympiques. Au niveau des Américains, c'est totalement différent. Au niveau des Américains, c'est de dire, écoutez, nous sommes une puissance économique, nous mettons les athlètes au devant de la scène, et c'est eux qui doivent montrer à nous politiques que c'est vraiment intéressant d'avoir les Jeux Olympiques. Or là, en ce qui concerne la France, non, Hollande l'a dit, Anne Hidalgo s'implique aussi énormément en disant, nous voulons les Jeux Olympiques parce que nous considérons que pour notre développement, pour notre image, c'est fondamental.
Jean-Jacques Fontaine.
Oui, alors je voudrais tout à fait appuyer dans ce sens-là en rappelant que pour ce qui est du Brésil ou des Jeux de Rio, ils interviennent exactement 2 ans après que le Brésil ait eu la Coupe du Monde de football en 2014. À l'époque, en 2009, lorsqu'il s'agissait de choisir les candidatures, personne n'imaginait qu'un pays qui allait avoir la Coupe du Monde puisse organiser les Jeux Olympiques 2 ans après. Et c'est donc évidemment cette bonne image du Brésil de l'époque et le travail aussi de lobbying que Lula a fait, qui a certainement emporté la victoire, face à une ville comme Chicago, qui était la ville de Barack Obama, qui venait d'être élu aux États-Unis. Donc là, il y a effectivement un jeu géopolitique extrêmement important. Si l'attribution des Jeux se faisait aujourd'hui et que Rio était candidate aujourd'hui, Rio n'aurait aucune chance d'obtenir les Jeux malgré la qualité de son dossier.
Alors Armand Drandinger, vous évoquiez le cas de Los Angeles qui est candidate face à Paris en 2024. Est-ce qu'une présidence Trump aurait un effet sur la candidature américaine? On a entendu justement le maire de Los Angeles s'en inquiéter.
Bon, je ne peux pas mettre à la place de tous les membres du CIO, mais il est très clair que Eric Garcetti a parfaitement raison, le maire de Los Angeles, quand il dit « si Trump est élu, ça risque d'écorner sérieusement l'image des États-Unis ». La particularité, quand même, il faut bien comprendre les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Los Angeles, comme l'était Chicago, comme l'a été New York, n'est pas une candidature américaine, c'est une candidature californienne, qui est un État par rapport aux États-Unis, en clair. Donc, c'est Los Angeles et la Californie qui se vend au CIO au travers de son maire, de ses athlètes, de sa gouvernance, et ainsi de suite. Et donc, en clair, il y a un tiers des membres du CIO qui ne veulent pas les États-Unis, pour des raisons historiques, des raisons politiques, et ainsi de suite. Comme sans doute un tiers des membres du CIO ne veulent pas que l'Europe ait de nouveau les Jeux Olympiques, et en particulier la France. Donc on peut dire que tous les éléments qui concourent à écorner ou à renforcer une image ont son importance. Donald Trump, président, même si Hillary Clinton, qui s'était impliqué dans la candidature de New York pour 2012, n'a pas forcément tous les suffrages au niveau du CIO, mais celle de Donald Trump, l'image qu'il projette au travers de ses déclarations, sont un mauvais point pour les Américains. Comme il y a des mauvais points aussi pour d'autres. Vous prenez les Italiens, Rome, grand contributeur, l'Italie, grand contributeur au mouvement olympique, très souvent candidat et ainsi de suite, je dirais, s'implique beaucoup plus dans le lobbying international, dans sa diplomatie internationale, que dans l'offre d'une infrastructure moderne, nouvelle, qui pourrait faire évoluer Rome. Ça plaît et ça déplaît à des membres du CIO. Budapest, ville nouvelle, candidat pour la première fois à l'organisation des Jeux Olympiques. Pourquoi pas attribuer les Jeux à une ville de cette importance, à un pays nouveau dans le concert olympique, mais la politique menée par Orban n'est pas forcément ressentie comme quelque chose de tout à fait valable par un bon nombre de membres du CIO.
Jean-Pierre Augustin, je voulais vous faire réagir là-dessus. Est-ce que finalement la personne qui porte le projet olympique n'est pas aussi importante que le projet en lui-même ?
C'est effectivement un atout très important et les présidents français successifs l'ont bien compris, comme ça a été rappelé. Mais Le problème, c'est que les gens qui votent, à bulletin secret, donc, sont dans des logiques qui ont été rappelées aussi à l'instant et qui sont déterminantes. Moi, je ne sais pas si on peut dire que vraiment un tiers des membres qui vont voter ne veulent pas des jeux en Europe ou aux États-Unis. Il y a un jeu de lobbying assez secret. C'est presque un jeu d'échecs. Et là, il y a un travail qui est fait par des réseaux, par de la diplomatie, qui est assez intéressant d'ailleurs à étudier. On a une diplomatie sportive qui mérite beaucoup d'attention.
En matière de diplomatie sportive, la Russie s'est montrée en première ligne ces dernières années. Mais là, très clairement, ils sont en train de perdre la partie d'échecs. Est-ce que il peut y avoir, Jean-Pierre Augustin, une sorte... Est-ce que la Russie n'est pas en train de payer des intérêts géopolitiques qui se ligueraient contre elle à travers le mouvement olympique?
Oui, alors il est certain que la Russie est actuellement plutôt en mauvaise position, notamment en fonction du dopage. Hein, on en parlait de dopage d'État. Là, je crois qu'on peut dire, si on rejoue sur les chiffres qui ont été donnés, et que plus d'un tiers des membres du CIO vont être très résistants pour une candidature qui viendrait de la Russie. Poutine a réussi les Jeux d'hiver, mais on a vu les conséquences que ça a donné, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chance dans l'avenir proche pour une candidature russe.
Armand Rondinger, au Kremlin, on est persuadé qu'il existe un complot anti-russe ourdi à la Maison-Blanche. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des intérêts anti-russes vraiment qui se liguent à la manœuvre au sein du CIO ?
Je pense qu'il y a des manœuvres anti-russes au sein du CIO, mais moi j'ai une vision, je dirais, radicalement différente aujourd'hui. Je suis pas surpris, mais je constate qu'après avoir eu le point sur la table, le CIO avait dit on va prendre des mesures, des sanctions exemplaires vis-à-vis de la Russie, et en fin de compte on n'a eu que des effets de manche. Alors, ces effets de manche ne sont pas liés au fait que le CIO soit faible ou quoi que ce soit, mais je crois qu'il est rentré dans une certaine logique d'échanges, d'accords entre les grandes nations olympiques, et de voir que, au final, les Américains, via leur comité national olympique, qui est très puissant, via l'USADA, qui est la grande antenne antidopage, de lutte contre le dopage aux États-Unis, après avoir mis aussi le point sur la table, a mis de l'eau dans son vin. Le résultat final, c'est quoi? C'est que les Russes sont présents pour grande partie à Rio, avec les problèmes d'image que ça peut poser. Les Américains n'ont pas contesté outre mesure que cela, à part quelques athlètes. Le CIO est très content que ça se passe quand même relativement bien à Rio, après toutes les inquiétudes qu'on avait. Et je pense qu'il y a une sorte de deal qui est créé entre les Russes, les Américains, le CIO, et puis éventuellement d'autres puissantes importantes pour faire en sorte que les choses, je dirais, s'arrangent le mieux possible, et surtout qu'aucun État important puisse boycotter les Jeux Olympiques.
Frédéric Munier, la Russie a beaucoup utilisé le sport comme outil de propagande. Est-ce que d'autres nations n'ont pas justement utilisé le sport et les Jeux Olympiques pour retourner l'outil et l'arme de propagande contre la Russie ?
Oui, alors évidemment, on pense tous à la guerre froide. La guerre froide a été le moment sûrement dans lequel la Russie, URSS, si vous voulez, a à la fois utilisé les Jeux pour sa propagande et en a fait les frais. La Russie, vous savez, a snobé les Jeux Olympiques de la Révolution de 1920 jusqu'à sa réintégration, enfin son entrée au CIO, donc en 1952. Et à partir de cette période, eh bien, en quelque sorte, les JO, chaque JO, 52, 56, 60, etc., sont devenus des chambres d'écho de la guerre froide. En 52, par exemple, le choix de la ville s'était porté sur Helsinki, absolument pas pour des questions de chef d'État, hein. C'est un des grands changements par rapport à aujourd'hui, parce que Helsinki était une ville qui est de l'Ouest, mais pas contre l'Est non plus, et il avait même fallu construire deux villages séparés. Les communistes avaient leur village pour éviter les tensions. Je reviens sur une chose qui vient d'être dite, qui est très juste. Je crois que après les grands boycotts, Moscou 80, Los Angeles 84, les grandes nations ont toutes compris que le boycott, en fait, ne leur apportait pas grand-chose. C'était quand même des pertes de médailles sèches pour ceux qui boycottaient. La France, d'ailleurs, n'avait pas boycotté les Jeux Olympiques de Moscou en 80, et c'est là où elle a eu plus de médailles. Elle a tout à gagner à ça. Donc effectivement, je crois que les grandes nations s'arrangent aujourd'hui pour essayer de ne pas s'humilier et au fond d'être toutes présente.
Ce sera le mot de la fin. Merci Frédéric Munier. Il vaut mieux aller aux Jeux Olympiques, même avec 110 athlètes en moins, que ne pas y aller du tout. Merci à vous. Merci à Jean-Jacques Fontaine, qui était en ligne de Rio. Merci à Jean-Pierre Augustin et Armand de Rendinger d'avoir accepté cette invitation. Géopolitique, je vous le rappelle, est à réécouter quand vous le voulez sur notre site internet www.rfi.fr. Bonne soirée à tous à l'écoute de la Radio du Monde.